Je remercie Monsieur le Président et les membres du comité d'organisation et tout particulièrement le professeur Conry de me permettre sans doute pour la dernière fois de retracer la belle histoire de notre école du service de santé des armées de Bordeaux que l'on continue d'appeler toujours l'école de santé navale. Bien, mesdames, messieurs, l'histoire des institutions humaines est durablement influencée par leurs conditions de leur naissance. Et celle de l'école du service de santé de Bordeaux a été, dès le départ, à la fois très difficile et désirée. Et il faut à cet égard poser deux questions. Finalement, pourquoi une telle école et pourquoi à Bordeaux? Pourquoi une école? Il en existait en effet déjà trois, que l'on appelait les écoles de médecine navale qui avaient été créées après l'ordonnance royale de Colbert de 1689 et qui était installée dans les ports de Rochefort, de Brest et de Toulon. Et ces écoles connurent pendant très longtemps une grande réputation en favorisant un enseignement allié à une conception novatrice de la formation. Ces écoles de médecine navale étaient finalement des CHU avant l'heure. Mais après 1860, l'obligation qui était faite aux médecins navigants de satisfaire au doctorat, il devenait impossible de maintenir un enseignement autonome dans les ports, et c'est pourquoi la création d'une école entièrement nouvelle, proche d'une faculté de médecine, apparaissait dès lors nécessaire, et c'est ainsi que les trois vieilles écoles, les trois anciennes, deviendront les futures écoles annexes. Pourquoi Bordeaux ? Trois villes étaient candidates, Bordeaux, Marseille et Montpellier. Bordeaux fut choisi. Son solide dossier technique faisait état de 2400 lits d'hôpitaux et comportait déjà toutes les spécialités, de larges capacités de dissection et déjà de la pathologie exotique de malades qui provenaient d'Afrique, du Sénégal et du Brésil. La ville de Bordeaux fit le siège du ministre. Celui-ci s'appelait Barbet, sénateur-maire de Mazamet, qui fut sensible, avec la commission qu'il présidait, à la situation géographique de notre ville par rapport aux trois ports de guerre déjà cités. La décision en faveur de Bordeaux fut rendue le 22 juillet 1890. La rentrée était prévue pour le mois de novembre, et où allait-on mettre cette nouvelle école si difficilement obtenue? On pensa tout d'abord à l'hôpital de la Manufacture, à l'hôpital Saint-Jean, qui était le site actuel de l'Institut d'odontologie du cours de la Marne, et enfin au vieil asile du cours Saint-Jean, qui avait lui-même une très longue histoire, car successivement consacré à l'accueil des pestiférés, puis des aliénés, plus tard comme maison de force provisoire pour les femmes de mauvaise vie, et enfin comme dépôt royal de mendicité, dont on voit toujours la porte monumentale. Et à la rentrée universitaire, l'enclos vit alors s'installer, après les pestiférés, les fous, les prostituées et les mendiants, une nouvelle catégorie d'occupants, ces étudiants militaires et marins, que l'on appellera et que l'on continue toujours d'appeler les navalais. Et ce fut sûrement une très belle cérémonie qui, pour l'inauguration de 1890, avait réuni dans notre chapelle de brillantes personnalités, parmi lesquels le doyen Albert Pitre, qui avait déclaré « Soyez les bienvenus, messieurs les étudiants de la marine. L'avenir vous réserve l'honneur de représenter dans les pays lointains la science française. Vous trouverez toujours en nous, à Bordeaux, des maîtres bienveillants. » Eh bien, ainsi, tout un programme et un projet se trouvaient déjà tracés. Les bâtiments neufs furent achevés pour la rentrée 1893. L'édifice sur le cours Saint-Jean, actuellement cours de la Marne, bien connu, toujours en place, et le bâtiment Ferbos des élèves, qui sera rehaussé en 1930. Dans cette école du début du siècle, conçue pour 150 élèves, la vie était réglée déjà par des principes rigoureux, définitivement centrés sur les études, laissant peu de place aux loisirs. Mais les témoignages de l'époque insistent déjà sur la chaleur de l'accueil des Bordelais aux nouveaux venus qui étaient revêtus de l'uniforme qui attirait et qui flattait les mères de famille. Celui-ci était celui des aspirants de marine, ornés du velours cramoisi pour les médecins et vert pour les pharmaciens. Et leur silhouette devint très vite familière à la rue bordelaise. Et du reste, François Mauriac avait décrit ainsi l'un de ses héros, adolescent du début du siècle. Elle le reconnut de loin, car il avait dû ce jour-là, pour quelques cérémonies, revêtir l'uniforme du collège et sa pèlerine, pas attachée, était jetée avec négligence sur les épaules pour imiter les élèves de l'école de santé navale. Diverses festivités formèrent vite une tradition. Réception des élèves musclés de première année, toujours appelés les fœtus, fête de l'échelle, soirée de revue remplacée plus tard par l'actuelle fête caritative de l'Aiglon. On ne peut entrer, bien sûr, dans le détail de la description de la vie quotidienne du Navalais, mais je ne voudrais pas omettre de relever un passage du règlement intérieur qui témoigne encore du souci d'intégrer l'école dans l'économie de la ville. Le vin fourni sera uniquement de la Gironde, ayant au moins un an d'âge, de goût franc et naturel. De quoi, mesdames, messieurs, se féliciter que Montpellier n'ait pas été préféré à Bordeaux. Les études, objet de tous les efforts, très strictement contrôlées, étaient déjà dès cette époque encadrées par des répétiteurs, promus plus tard professeurs, établissant d'emblée des rapports suivis avec la faculté de médecine et les hôpitaux. Le tout premier arrivé à l'école dès 1891 fut Alexandre Le Dantec, que l'on voit ici sur le rang du haut, le numéro 2 à droite. Le Dantec, qui a été le fondateur de la chaire de médecine tropicale à Bordeaux et qui va donner à la ville le début de son audience dans cette discipline. Au cours de cette période initiale, les Navalais représentaient d'ailleurs le tiers des étudiants en médecine et se destinaient d'abord uniquement à la marine, puis aux colonies. L'expansion coloniale, en effet, les importants besoins en médecins, à terre comme sur mer, les progrès liés aux conséquences de l'ère pastorienne induisent de nouvelles perspectives d'exercice en Afrique, en Asie, à Madagascar, aux Antilles et même en Chine. Et ce fut, en quelques années, l'éclosion des instituts pasteurs, de multiples écoles de santé et des centres de soins. Après 1900, les besoins vont augmenter, le recrutement de l'école aussi, et les effectifs vont passer à 240 élèves en 1914. L'école devenait trop petite. La solution trouvée fut l'externement, qui est encore d'actualité pour nos élèves, je dois le dire, dès la quatrième année de scolarité. Mais certains prônaient déjà d'autres solutions. Le député de Lyon, un dénommé Augagneur, suscitait déjà une campagne pour supprimer les écoles de la marine. Et ce thème, on le sait, deviendra récurrent, va ressurgir en 1920 et à nouveau par la suite. On envisagea alors d'agrandir l'école, mais la Grande Guerre de 14/20 et allait arrêter tous les projets. Dès le 2 août 1914, en effet, les élèves furent dispersés sur tous les fronts, sur les navires, en France, dans les Dardanelles. Et à leur retour, fin 1918, s'il y avait parmi eux 350 citations des légions d'honneur, il y avait aussi de nombreux disparus. La vie d'entre les deux guerres comporta peu de changements. Certes, l'uniforme évolue avec la gracieuse cape des années 30, mais l'organisation des études demeure inchangée. Enseignement de la faculté, renforcé, contrôlé à l'école, comme à présent, concours de l'externat, obtenu par la grande majorité des élèves, de brillants scores aussi à l'internat, et une intégration complète dans le monde universitaire bordelais et hospitalier. C'est l'une des caractéristiques majeures de notre école qui n'a jamais été tentée par un repli sur elle-même. C'est aussi la grande période du développement sanitaire outre-mer qui reposait sur plus d'un millier de postes du corps de santé colonial. En 1939, de nouveau la guerre. L'arrivée de l'occupant en 1940 va entraîner le départ vers la zone libre et le séjour de les élèves à Montpellier dans des installations de fortune. Après l'invasion de la fin 1942, la vie continuera précaire, difficile, et ce fut l'heure des actes d'héroïsme individuel, de résistance. Le retour à Bordeaux fut organisé pour la rentrée 43, mais la réintégration au 147 cours de la Marne ne se fit que quelques mois avant la victoire de 45. 66 élèves avaient trouvé la mort pendant ce conflit. La vie normale reprit à Bordeaux, mais très vite la guerre d'Indochine, plus tard celle d'Algérie, et ces deux affectations furent pour beaucoup de Navalais leur première destination à la sortie de l'école. 36 élèves ou anciens élèves allaient disparaître dans ces combats. Dans les années d'après-guerre, des promotions de plus en plus nombreuses prennent part au développement de la santé publique outre-mer, fidèle à notre devise « Marie transvémare, omnibus semper prodesse, sur mer et au-delà des mers, toujours au service des hommes ». Puis, malgré le désengagement militaire des pays africains indépendants, cette œuvre a trouvé un prolongement naturel avec la coopération. C'est ainsi que Bordeaux, depuis si longtemps tourné par son histoire vers l'outre-mer comme cité margente, va se retrouver depuis plus de 100 ans, grâce aux élèves de l'école, au premier rang de ce rôle humanitaire dans le domaine de la santé. Mais à partir de 1970, va s'opérer une modification du statut de l'école, avec la fusion des différents services de santé des armées, et l'école principale du service de santé de la marine allait devenir école du service de santé des armées de Bordeaux. Autre nouveauté, après 1974, l'admission chaque année d'un certain pourcentage de jeunes filles. Fin du recrutement des élèves pharmaciens, tous regroupés à Lyon, tandis que l'accueil des élèves étrangers, pour la plupart africains et malgaches, va être poursuivi jusqu'à ces dernières années. Notre dernière stagiaire, cependant, une malienne, a quitté l'école en 2007. En novembre 81, allaient tomber successivement deux nouvelles. La suspension brutale du programme de reconstruction de l'école à Mérignac, mauvais espoir, et l'annonce d'une décision de fermeture de l'école. Eh bien, à l'époque, cette menace avait suscité de très vives réactions des autorités universitaires et municipales. Et du reste, le président Tavernier avait même fermé l'université pendant 24 heures. Il y a eu un soutien massif de la population bordelaise et les 100 000 signatures recueillies et rapportées à l'Élysée allaient enfin conduire au maintien de notre école. En 1990, la célébration du centenaire de l'école fut l'occasion d'un grand rassemblement place de la Bourse et d'une sorte de bilan d'un siècle d'existence. Près de 8000 élèves, une œuvre scientifique et humanitaire de poids, portée par le dévouement d'une masse importante d'anonymes et le sacrifice de 400 d'entre eux, victimes du devoir, auxquels il faut évidemment ajouter parfois enfants et épouses, victimes des épidémies. Nos anciens contribuèrent ainsi à la création de nombreux hôpitaux coloniaux, de pharmacies d'approvisionnement, d'écoles de médecine, d'écoles de sages-femmes, de maternités, de dispensaires, d'instituts pasteurs, en Afrique, en Asie, à Madagascar, en Indochine, en Chine, et d'instituts spécialisés comme ceux de Marchou pour l'étude de la lèpre à Bamako. Eh bien, mesdames, messieurs, de cette longue histoire, que peut-on finalement retenir? Bien évidemment, d'illustres anciens, comme Tribondeau, inventeur avec Bergonnier de la loi fondamentale qui est à l'origine de la radiothérapie, Victor Ségalen, dont l'université porte le nom, à la fois poète, romancier, anthropologue en Polynésie et archéologue en Chine, Paul-Louis Simon, qui démontra après Yersin le rôle vecteur de la puce du rat dans la transmission de la peste. Girard et Robic, qui réussirent enfin à mettre au point en 1932, à Tananarive, un vaccin anti-pesteux efficace. Calmette, pour la prophylaxie de la variole et dans son rôle ensuite pour le BCG. Légret et Durieux, créateurs du vaccin contre la fièvre jaune à Dakar en 1927. Jameau, qui insuffla à ses équipes mobiles une véritable mystique, celle de la lutte contre la maladie du sommeil. Je réveillerai l'Afrique. Muraz, pionnier de la médecine tropicale, et de la lutte contre les grandes endémies en Afrique. Colomb, l'un des fondateurs de l'ethnopsychiatrie africaine. Esnard, qui allait introduire la psychanalyse en France. Georges Portnal, le grand patron de l'ORL bordelaise. Laborie, l'un des fondateurs de l'anesthésie moderne. Et plus près de nous, mon camarade de promotion et ami disparu, Dominique Dormont, expert international des agents transmissibles non conventionnels. L'école actuelle de formation interarmée, on le sait, a cependant conservé des particularités importantes de son origine navale. Elle compte aujourd'hui 360 élèves, féminisés à 58%. L'organisation des études est restée inchangée et l'enseignement complémentaire important, formation militaire, activités sportives, enseignement approfondi en médecine des catastrophes, d'urgence en médecine tropicale, en épidémiologie et en langue anglaise. Le soutien universitaire, animé par une équipe pédagogique solide, permet chaque année un taux de succès de l'ordre de 70% au concours de la fin de première année du premier cycle des études médicales pour les primants et quasiment à 100% pour les doublants. Depuis 3 ans, la préparation des épreuves nationales classantes à la fin du D4 est intense, placée sous la responsabilité du corps professoral du service de santé des armées. Et c'est ainsi qu'au bout de 6 ans de formation, les nouveaux internes rejoignent l'école du Val-de-Grâce, qui va assurer ensuite le suivi pédagogique au cours du 3e cycle. Et pourtant, mesdames, messieurs, vous le savez sans doute, cette belle histoire va définitivement s'achever en 2011. Notre école, en effet, fait malheureusement partie des structures que le ministre de la Défense a décidé de supprimer pour aller créer une nouvelle école des praticiens des armées dont l'implantation, devinez-le, eh bien, se fera sur le site actuel de l'école de Lyon. Ce combat amorcé dès 1909 a cette fois porté ses fruits. Et c'est avec une profonde tristesse que je citerai en guise de conclusion les réflexions de Cornu Gentille, un ancien haut commissaire en Afrique occidentale française, à l'occasion de l'inauguration d'une plaque commémorative à la mémoire du médecin général Murat à Bobo Dioulasso. Y a-t-il au monde plus petite équipe d'hommes ayant rendu plus de services à l'humanité souffrante? Y a-t-il au monde œuvre plus désintéressée, plus obscure, ayant obtenu de si éclatants résultats et qui soit pourtant ignorée, aussi peu glorifiée, aussi peu récompensée? Je vous remercie.